grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes mercredi 13 août 2014 et aujourd'hui, nous parlons de l'esclavage qui concernerait plus de 7% de la population malienne. Nous ferons le point de la situation, analyserons les textes de répression en la matière au Mali et la possibilité d'une loi contre l'esclavage dans le pays. Nos invités, Maître Amadou Djeoulé Diarra, Madame Keïta Fatou Sissoko et Koïna Ag Mourdou, vice-président de l'association TEMED. Merci à vous pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara est le technicien du jour. Des études estiment que plus de 800 000 personnes sont victimes d'esclavage au Mali. Le constat est celui d'Ibrahim Ag Ibn Talat, le président de l'association TEMED, une association qui lutte contre l'esclavage dans le pays. Selon Nafé Keïta, anthropologue à l'université de Bamako, il y a au moins 300 000 esclaves à part entière au Mali. Mais en incluant les descendants et les affranchis, le plus souvent méprisés, la question concernerait plus de 850 000 personnes, soit près de 7% de la population. Alors, une question avant de commencer ce débat. Entendons-nous sur la définition aujourd'hui de l'esclavage. Je m'adresse à Koïna Ag Amourdou, président, vice-président de l'association TEMED. Quelle définition faut-il donner aujourd'hui de l'esclavage?
Merci, monsieur Sidibé. Merci aussi, Tamani, de nous avoir donné, nous, les TEMED, l'occasion de nous exprimer sur... une question aussi préoccupante qu'est l'esclavage. Ceci dit, je vais me référer à la Convention de la Société des Nations de 1926 qui a défini dans « Abolir l'esclavage et ses formes contemporaines » l'esclavage comme étant l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. De cette définition, je vais rappeler aussi celle que le législateur du Niger sur demande de notre association sœur de Timidria, définition du Niger qui stipule que l'esclavage est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux.
Alors, est-ce que le droit de propriété est exercé sur ce qu'on appelle esclaves aujourd'hui au Mali?
Le droit de propriété est exercé sur ce qu'on peut appeler, et dans certains contrées, dans certaines situations, esclaves au Mali.
Donc, ce n'est pas la totalité?
Ce n'est pas la totalité.
De l'estimation que nous avons aujourd'hui?
Pas la totalité de l'estimation que nous avons aujourd'hui, parce que au Mali, nous déterminons deux formes d'esclavage. Il y a des anciens esclaves qui vivent le statut d'esclave et il y a des esclaves qui vivent les conditions d'esclavage. Donc, c'est deux formes différentes que nous vivons au Mali, que vivent la totalité de ceux que Nafé Keïta a dénombrés dans son étude.
D'accord. Alors, madame, vous êtes madame Keïta Fatou Sissoko, présidente. Fatoumata Sissoko, vous êtes présidente de la Coalition nationale de lutte contre l'esclavage. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une autre définition, autre que celle que nous venons d'entendre?
Bon, je pense que je remercie d'abord Radio Tamani de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur l'esclavage au Mali et les auditeurs aussi de la radio. Je pense que la définition qu'il a donnée, c'est une définition juridique. Mais nous pensons en tant que coalition que l'esclavage est un fait de s'approprier de quelqu'un pour dire que la personne t'appartient. Tu le fais travailler sans contrepartie du travail. Donc là aussi, c'est un aspect très, très délicat qu'il faut voir. Et surtout, dans certains coins, on parle de l'esclavage par ascendance. Donc quand une femme est esclave, l'enfant qu'elle va donner devient automatiquement esclave. du propriétaire de la femme. Même si le père de l'enfant est noble, le fait de venir d'une femme esclave, l'enfant devient automatiquement esclave.
Alors, nous avons un homme de loi avec nous en ligne aujourd'hui, Maître Amadou Tchéoulé Diarra. Maître, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que vous avez entendu les différentes définitions qu'on vient de donner à l'esclavage?
Oui, bien évidemment. État de la personne, condition dans laquelle elle se trouve, et puis le mot sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété. Terre à terre, l'abusus, le fructus. Et le droit, par exemple, de jouir de la chose, d'utiliser la chose, et ensuite maintenant, le pouvoir de vendre la chose ou de disposer de la chose. Je pense que le fructus, c'est très clair. Je pense également que l'autre attribut, utiliser la chose, est très clair. Maintenant, là où il y a la discussion au niveau des différents pays, c'est la vente. Est-ce que le maître peut disposer de son esclave? Évidemment, on a rencontré quelques rares cas de transactions dans mon expérience en fait, avec ce maître, mais ils ne sont pas vendus sur tel ou tel marché. Mais nous avons pu effectivement noter quelques transactions d'un chef coutumier esclavagiste à un autre chef coutumier esclavagiste.
Alors maître, juste une parenthèse, aujourd'hui entre l'acceptation de ceux qui sont censés être des esclaves et le combat de ces différentes associations et de la coalition que représente madame ici aujourd'hui, on est un peu perdu. Est-ce qu'on peut savoir qui est esclave et qui ne l'est pas au Mali?
Oui, généralement c'est comme lance en fait à la face. Quand les gens disent « oui, mais ils ne sont pas esclaves parce que, après tout, ils ont accepté. » Bon, je crois que ce n'est pas une bonne réponse parce que les conditions dans lesquelles ces gens ils se trouvent, eh bien, font qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre la fuite et de s'en aller. Or, nous avons vu dans plusieurs cas, que même quand ils prennent la fuite pour se libérer et s'en aller, eh bien les maîtres vont les trouver là où ils se sont installés pour réclamer le fruit de leur activité. Et par conséquent, pas plus tard qu'au mois de juillet, août dernier, à la faveur, évidemment triste, de la crise au Nord, beaucoup d'esclaves, eh bien, ont fui pour venir s'installer dans la zone au sud du Niger. Nous les avons rencontrés et il y en a qui ont dit qu'ils ont trouvé le salut dans la fuite et que la crise a été un bonheur pour eux. D'autres, par contre, ont estimé qu'après la crise, ils vont retourner eh bien, dans leur terroir que parce que c'est leur environnement qui est important pour eux.
Alors, Monsieur Koïna Ag Ahmoudou, aujourd'hui, comment gagner la lutte contre l'esclavage quand on sait que l'opinion publique a tendance à accepter le système et au même titre que certaines victimes?
Comment gagner la lutte contre l'esclavage? Il faut poursuivre dans le sens de la volonté de Temet. En sensibilisant toutes les parties prenantes, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, l'État, le système judiciaire du Mali, en attirant l'attention sur les méfaits de l'esclavage. Dans le contexte actuel de la décentralisation, de la démocratie, et c'est vraiment retarder le progrès social que de maintenir certains individus dans la position de propriété de d'autres individus.
Alors, Madame Fatoumata Sissoko, Madame Keïta Fatoumata Sissoko, vous êtes présidente de la Coalition nationale de lutte contre l'esclavage. Aujourd'hui, beaucoup d'associations restent dans la dénonciation. Quels sont les progrès significatifs, concrets, aujourd'hui, que vous enregistrez, vous, à votre niveau, au niveau de la Coalition nationale de lutte contre l'esclavage?
Merci, M. Sidibé. Il est quand même évident que nous avons commencé à voir les fruits de notre lutte. En ce sens que nous avons eu une très bonne écoute auprès du ministre de la Justice, qui a été sensibilisé avec son staff. Nous avons aussi été reçus par la commission loi de l'Assemblée nationale. Et nous voulons quand même qu'il y ait une loi pour réprimer l'esclavage. Je vous dis que ce phénomène-là, c'est dans tout le Mali. Du sud au nord, partout au Mali, on rencontre l'esclavage. On a même eu des cas où l'association Nko nous a dit une femme qui devait être mariée, on n'a pas voulu la donner en mariage parce que c'est la chose publique. Donc, c'est parce qu'elle est esclave. Donc, l'esclavage, là, je dis que c'est aussi une des raisons de la rébellion au nord.
Parce que
en ce sens que les gens commencent à être sensibilisés et savent que vraiment, c'est une personne normale ne doit pas accepter cet état de fait. Il y en a qui se rebellent, il y a eu des rébellions dans ce sens, il y en a qui ont fui, qui ont pu être rattrapés, d'autres n'ont pas pu être rattrapés, il y en a aussi dont Temet a fait fuir, et il y a même eu des actions qu'on a intentées en justice contre les maîtres. Et c'est des maîtres qui sont conscients que cette personne-là les appartient et ils sont prêts à aller devant la justice pour aller dire que c'est leur propriété. Donc c'est vous dire vraiment le degré de gravité de ce phénomène.
Alors, M. Koïna Ag Ahmoudou, aujourd'hui, la plupart des membres de votre association, de l'association Temet, sont des ressortissants du Nord. Est-ce que vous êtes constitué uniquement que de Bella? Ou bien il y a d'autres communautés?
Les membres de l'association
Temet.
Merci bien, M. Sissoko. M. Sidibé, j'ai dit tout de suite que non. L'association Temet a été initiée en août 2006, par la communauté Keltamashaka Noir, qu'on appelle par-ci Bella, qu'on appelle par-là Akli en Tamashaka qui veut dire esclave, qu'on appelle par-ci Surgadjon, ou Surgubanya, Surgabanya, ainsi de suite. Bref, la communauté de Keltamashaka Noir, les cadres de Keltamashaka Noir se sont assis, réfléchis, observés la situation et ont décidé de créer l'association.
Alors, est-ce que ces noms que vous définissez aujourd'hui comme étant esclaves, la définition de ces noms dit clairement esclaves, est-ce qu'en acceptant de porter ces noms-là, vous n'acceptez pas de fait l'esclavage?
Oh non, je disais qu'il y a deux formes au Mali. Il y a le statut d'esclave et les conditions d'esclavage. C'est des noms qui reflètent un peu les statuts d'anciens esclaves. C'est des formes de considération, d'idéologie que les autres communautés veulent perpétuer pour maintenir ces communautés-là, ou ces anciens esclaves, dans ce statut d'esclave.
Et qui ne vous convient pas aujourd'hui?
Ne nous convient pas aujourd'hui, bien sûr.
Je vous propose d'observer quelques secondes de pause et nous allons poursuivre avec la seconde partie de ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz, Radio Damana de Djéné, 91 MHz et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alfarouk de Tombouctou, 98 MHz. Isaber de Niafunké, 96.3 MHz. Ce débat sur l'esclavage est suivi au même titre que toutes nos productions ici au Studio Tamani, aux quatre coins du pays, grâce à la collaboration avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL. On peut déposer plainte pour privation de liberté et coups et blessures. Existe-t-il aujourd'hui une loi qui puisse corriger ce vide juridique? Il existe bien évidemment un vide juridique pour la répression de la pratique de l'esclavage au Mali. Que faire alors? Cette deuxième partie tente de répondre à cette question. Nos invités, Maître Amadou Tchéoulé Diara, Madame Keita Fatou Sissoko, présidente de la Coalition nationale de lutte contre l'esclavage au Mali, et Monsieur Koïna Ag Ahmoudou, vice-président de l'association Temet. Alors, existe-t-il aujourd'hui des textes de répression? L'esclavage est officiellement interdit au Mali, mais il est toujours omniprésent. Y a-t-il des textes favorables à l'interdiction par la loi de l'esclavage au Mali? Maître Amadou Tchéoulé Diara.
Oui, Studio Tamani, je pense qu'il faut remonter un peu dans l'histoire. Et depuis le dernier département de la justice avant la chute du régime des ATT. Je crois savoir qu'en 2010, il y a une législation timide, c'est-à-dire la législation sur la répression et des trafics de personnes et en ce qui concerne les pratiques funéraires. Alors cette législation qui a vraiment suscité beaucoup de réactions au niveau de Temet, et qui a été critiqué effectivement par Temet à l'occasion de plusieurs ateliers. Alors, le département a été obligé donc de revenir en arrière et de retenir dans le corps de la loi le mot esclavage. Point très, sans lui donner une définition et sans lui donner un régime juridique. Autrement dit, en l'état actuel des choses, il y a une loi sur le trafic de personnes et en fait les pratiques analogues, mais une législation typique qui réprime l'esclavage n'existe pas, même si cette loi, elle renferme le mot esclavage, elle ne dit pas en fait, qu'est-ce qu'il faut entendre par esclave, qu'est-ce qu'il faut entendre par esclavage, et la loi ne dit pas non plus quand, en fait, une personne se plaint d'avoir été traitée comme esclave, et bien comment les tribunaux doivent effectivement recevoir et traiter la plainte. Nous en sommes là aujourd'hui, et à part cette législation, te mettre mieux placé que moi pour dire que le combat reste d'actualité et bien pour trouver une législation appropriée en la matière.
Merci beaucoup, Maître Amadou Tchéoulé Diara. Vous restez avec nous pour la suite du débat. Koïna Ag Ahmoudou, vous êtes vice-président de l'association Temet. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une unanimité autour de cette lutte contre l'esclavage au Mali? Est-ce que ce qu'on appelle maître aujourd'hui et esclave se retrouve au sein de votre association?
Effectivement, à la faveur de certaines activités que nous avons menées, aujourd'hui, nous avons l'adhésion de certains anciens maîtres, l'adhésion de beaucoup de chefs traditionnels qui étaient favorables, plus ou moins favorables à l'esclavage. La preuve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, et depuis 2006, nous avons près de 60 personnes 10 enfants libérés de l'esclavage et pris en charge par Témette à travers des structures qu'on a déjà mises en place.
Oh, ces enfants proviennent d'où?
Ces enfants viennent avec leurs parents.
De quelle région?
Il y en a de Gao, de la région de Tombouctou, vers Gossi. Voilà.
Ce n'est pas des talibés?
Non, pas des talibés. Non, pas des talibés. C'est des d'anciens esclaves, des vrais esclaves libérés. Pour la libération de certains esclaves, dans le secteur dans le Gourma, nous avons eu même l'adhésion, et à Menaka, nous avons eu l'adhésion et la participation de certains anciens maîtres d'esclaves qui ont pris conscience de cet état de fait et nous ont aidés à libérer certains anciens esclaves. Donc, le combat est toujours d'actualité et les résultats sont probants. Et nous avons bon espoir que la mentalité à l'intérieur, à travers tous les Mali, changera en faveur de la lutte contre l'esclavage.
Alors, madame, vous êtes la présidente de la Coalition nationale de lutte contre l'esclavage, madame Keita Fatou Sissoko, Fatoumata Sissoko. Quelles sont vos actions que vous menez sur le terrain?
Merci, M. Sidibé. Nous avons mené des actions et on continue à les mener. Nous avons rencontré des structures de défense des droits de l'homme. Ces structures aussi sont membres de la coalition, telles que l'AMDH, la CNDH, Armistice International, l'AGM, Association des juristes maliens, le Forum de la société civile, CAFO, tout le monde, le ministère de la Justice. Donc, aussi, j'ai parlé de la commission loi de l'Assemblée. Nous avons commencé par ceci, en les rencontrant, en leur expliquant qu'est-ce que c'est que cette coalition. Parce que la coalition vient en appui aux actions de Temet.
Vous l'avez créée quand, cette coalition?
On l'a créée en août 2012. En août 2012, voilà, c'est une jeune coalition qui rassemble toutes les organisations de défense des droits de l'homme.
Alors, on sait, madame, que chaque région a a ses statistiques en matière d'esclavage. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller dans les différentes régions, voire dans les villages, pour sensibiliser les populations?
Bon, pour le moment, on n'a pas été dans les villages, peut-être dans les régions, parce que nous comptons mettre les structures et de la coalition au niveau de toutes les régions du Mali. Donc, nous n'avons pas fait toutes les régions, on a quand même fait certaines régions, et nous pensons quand même qu'avec ça, on aura beaucoup de force pour affronter ce problème.
Alors, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, pour plus d'efficacité, est-ce qu'il faut aujourd'hui que ces différentes associations-là descendent sur le terrain, aillent dans les villages, rencontrent les populations pour que les populations adhèrent à l'idée d'abandon de l'esclavage?
Oui, mais il faut qu'elle aille au fond parce que, si vous voulez, les régions sensibles, c'est non seulement la région du Nord, mais précisément dans la région de Kaï, le cercle de Nourou. Il ne faut pas se voiler la face, il faut le dire absolument. Mais c'est le bon. Et l'intérêt de la question, c'est qu'au Nord, eh bien, le processus est soutenu par des intellectuels eh bien, qui n'ont pas honte de dénoncer leurs propres conditions et, en tout cas, ont eu l'idée magnanime de s'organiser autour de la question. Mais il me semble que la différence entre ce qui se passe au Nord, c'est-à-dire la volonté de se libérer, eh bien, par exemple, à l'Ouest, et précisément, eh bien, en Euro, je pense que les intellectuels, ils ne sont pas, en fait, arrivés à ça, à un niveau d'organisation. Moi, j'en sais quelque chose parce que, en 2005, j'étais l'avocat, eh bien, nous avons tenu une session d'assises là-bas, eh bien, j'ai vu comment les conditions et l'état de l'esclavage se manifestaient là-bas. Je me suis dit, à cause de la sensibilité de la question, je pouvais écrire un livre sur le sujet, mais je me suis interdit de le faire parce que c'était dramatique. Alors maintenant, si la coalition veut réussir, il faudrait qu'il y ait une enquête nationale sur la question. Parce qu'une question, elle est traitée quand elle est mieux maîtrisée. Mais quand une nation, en fait, continue à nier l'existence d'un problème, cette nation n'arrivera jamais à régler ce problème-là. C'est un problème de fond et d'ailleurs, moi je pense aujourd'hui que je suis très surpris que dans la feuille de route, il n'y ait pas la mention en un seul point de la question de la libération de l'esclavage. Or, c'est des questions démocratiques. C'est des questions démocratiques parce que qui sont en fait en étroite eh bien, liaison avec eh bien, les problèmes généraux de la démocratie. La question de l'esclavage est un problème spécifique.
Vous parlez de sa mention dans quelle feuille de route ? La feuille de route qui vient d'être signée à Alger ?
Effectivement, oui, parce que c'est la question du Nord dont il est question. Je pense qu'un des points eh bien, sur cette question eh bien, aurait dû être mentionné parce que moi, je ne peux pas me considérer comme libre si j'ai en face de moi un homme qui n'est pas libre. La plupart des gens qui sont allés et qui ont fui, et qui sont par exemple à Niamey, et qui sont au Burkina Faso, et qui sont en Mauritanie, la plupart, si vous regardez, vous faites la statistique, c'est des gens qui sont des conditions serviles, à Niamey, à Massina, jusqu'à, je ne sais pas, Debou et Sabali ou je ne sais où. C'est ça la question.
Alors, maître, est-ce que vous estimez qu'on a enlevé le caractère inclusif dans les pourparlers d'Alger ?
Non, pas qu'on a... Parce que moi, j'estime que c'est une question qui devrait effectivement être inscrite à l'ordre du jour. Parce que une question de libération n'avons pas mieux que l'autre. Il vaut mieux qu'on traite les questions ensemble pour qu'on trouve une solution globale. Puisqu'on dit qu'il faut un accord global et définitif. Je pense que la question de l'esclavage... C'est le moment de régler la question définitivement une bonne fois pour toutes.
Merci beaucoup, maître. Vous restez avec nous pour la suite du débat. Alors, Koïna Hamoud, pourquoi avoir mené ces activités en ce moment, au moment où le gouvernement malien est en pourparlers avec les groupes armés ? Est-ce que vous tentez de vous faire entendre de plus en plus ?
Oh, non, ces activités s'inscrivent dans le cadre de notre programmation. Hein. C'est le 8e anniversaire de l'association Temet. Et dans le cadre de festivités de cet anniversaire, nous avons prévu d'organiser une causerie débat sur la question qui nous préoccupe depuis un certain temps.
Alors, et au-delà de l'anniversaire, il y a eu aussi les assises du mois d'avril dernier.
Et oui, il y a eu en plus des assises du mois d'avril dernier, d'ailleurs, qui ont également fait cas de la question. Et cette séance de causerie débat va annoncer une conférence de presse, d'ailleurs, qui aura lieu après-demain. Sous la haute présidence du ministre de la Justice, sous la co-présidence des deux ministres, le ministre de la Justice et le ministre du Culte, comme ils l'ont fait lors du forum d'ailleurs.
Alors, est-ce que vos activités ont un lien avec la situation qui prévaut dans le Nord ?
Pas du tout.
Vous avez été consulté par rapport au pourparlers ?
L'association Temet ?
L'association Temet.
Non. Non, non, non.
D'accord. Ouais. Alors, madame, je reviens toujours sur cette question d'action sur le terrain. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des programmations en vue au niveau de la coalition nationale de lutte contre l'esclavage ?
Merci.
Est-ce que vous envisagez de descendre sur le terrain ?
Oui, nous envisageons de... Il y a un programme bien établi. Je pense qu'après les festivités, nous allons commencer à descendre sur le terrain. On avait commencé, mais comme Maître Até l'a dit, il faudrait qu'on aille au fond et qu'on fasse toutes les régions du Mali, même en dehors du Mali, parce qu'on a des gens qui sont un peu partout. Et nous sommes avec... cette même association qui existe et en Mauritanie et au Niger. Donc, nous comptons vraiment faire un truc sous-régional par rapport à la lutte contre l'esclavage.
Alors, Koïna, vous aurez la parole juste après quelques secondes de pause.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkan 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Merci d'être toujours des nôtres. Le Grand Dialogue du Studio Tamani vous parle aujourd'hui de l'esclavage. Nous sommes à la troisième partie du débat. La coalition de lutte contre l'esclavage par ascendance a décidé de décréter l'année 2014, année de l'action pour la criminalisation de la pratique de l'esclavage par ascendance. À ce jour, le projet de loi n'a toujours pas été examiné. Actuellement, cette pratique n'est pas spécifiquement qualifiée de criminelle. Pour en débattre aujourd'hui, nous avons trois invités, Maître Amadou Tchéoulé Diara au téléphone, Madame Keita Fatoumata Sissoko, présidente de la Coalition nationale de lutte contre l'esclavage au Mali. Nous avons aussi Monsieur Kouina Aga Ahmoudou, vice-président de l'association TEMED. J'espère que je prononce bien le nom. Une loi est-elle envisageable? L'universitaire Nafé Keïta a réussi à esquisser une géographie régionale de l'ampleur du problème. De 30 à 35% de la population autour de Tombouctou, 30% à Mopti, 20% à Gao, de 12% à 15% à Kaï. À partir du moment où l'esclavage est ancré de la sorte au Mali, sera-t-il possible d'envisager une loi sur le sujet, Maître Amadou Tchéoulé Diara?
Moi, je pense que c'est possible, d'autant plus que quand j'étais pendant 2 ans directeur pays de l'association des barreaux américains au Mali, je ne le suis plus, j'ai été remplacé par M. Olivier, mais quand j'étais, mon mandat était sur la question de l'esclavage. Et nous avons fait pratiquement 6 ateliers sur la question, avec l'association TEMED, et nous avons pu établir des fiches d'enquête et nous avons pu effectivement élaborer un avant-projet. Nous sommes passés de 12 articles à une vingtaine d'articles qui embrassent tous les aspects de la question de l'esclavage. Alors, il avait été question que l'avant-projet serait déposé sur le bureau du ministre de la Justice, mais malheureusement, le coup d'État a l'empêché. Alors aujourd'hui, la question reste d'actualité et je pense qu'il faut se féliciter qu'il y ait un gouvernement légitime et un gouvernement démocratique et qui va effectivement avoir dans son agenda cette question de la démocratie.
Alors, est-ce que cette question de l'esclavage fait l'unanimité au sein de la classe, de la famille judiciaire?
Bon, je pense que les magistrats, c'est des techniciens du droit. Quand vous donnez le droit à un magistrat, eh bien, la réponse est là. Donnez-moi les faits. Je vous donne le droit. Si c'est prévu par une législation spécifique qui ne comporte aucun nuage, aucune difficulté, les juges y suivront. Mais là où il y a le problème, quand les législations ou les textes qui répriment sont flous ou sont couverts d'incertitudes, eh bien les juges ne sont pas à l'aise pour poursuivre quelqu'un, par exemple, de fait d'esclavage. Même si, en fait, il peut trouver des formules avoisinantes pour faire son travail.
Alors, y a-t-il des raisons sociales qui font que cette loi ne parvient pas à être votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale?
Bon, pour moi, la seule raison sociale, c'est que si on va sur un terrain sociologique, je pense que du point de vue sociologique, moi je trouve que dans la mentalité malienne, dans les 80% de la mentalité des intellectuels maliens, nous n'avons pas rompu avec notre passé traditionnel. Ce qui fait que cette rupture qui n'a pas été consacrée fait que nous tarderons à avoir une législation sur la question. On me posera la question de savoir mais pourquoi le Niger là, pourquoi la Mauritanie là. Le Niger a une législation, la Mauritanie a une législation du point de vue juridique, oui, mais dans les faits, eh bien, les pratiques n'ont pas pour autant changé.
Alors, vous parliez tout à l'heure de mentalité. Maître, merci beaucoup. Vous parliez de mentalité. Koïna Ag Ahmadou, vice-président de l'association TEMET, est-ce que justement cette question de mentalité persiste? Est-ce qu'elle peut changer? Est-ce que la mentalité des populations en faveur ou en défaveur de l'esclavage peut changer au Mali?
Les mentalités peuvent changer. Et nous sommes très optimistes par rapport à ces changements-là. Nous disons même que nous avons fait un grand pas dans le cadre du changement de mentalité. Parce que aujourd'hui, nous parvenons à tenir des rencontres de sensibilisation dans des localités où il n'était pas du tout possible d'envisager d'y aller. Pas plus tard que là, il y a deux semaines, le mois passé, une mission de l'association s'est rendue à Nyourou pour tenir une conférence dans le cadre de la sensibilisation. Après beaucoup de réflexions, beaucoup de tentatives, beaucoup de sensibilisation, en sourdine bien sûr, parce que c'est très sensible, il ne faut pas aller brutalement, il faut aller doucement. Et c'est quand on sent que le climat est favorable qu'on y va. Et nous tenons la rencontre. Et nous avons quand même constaté que les mentalités ont beaucoup changé. On est certes beaucoup pressé compte tenu de la susceptibilité, compte tenu de l'aspect de la question. Mais les mentalités changent, ont beaucoup changé. Alors, et là, peut-être que dans le mois prochain, nous avons programmé d'aller dans une autre localité de la région de Koulikoro.
Koulikoro qui n'est pas dans les statistiques. Est-ce qu'il y a beaucoup, le phénomène existe beaucoup à Koulikoro?
Le phénomène existe à Koulikoro. Nous avons envisagé d'aller dans certaines zones où nous avons quand même découvert certaines poches où il est nécessaire d'aller.
D'accord. Voilà. Alors, Madame Keita Fatoumata Sissoko, présidente de la Coalition nationale de lutte contre l'esclavage, est-ce que les soi-disant esclaves, les personnes qu'on dit victimes de l'esclavage, aujourd'hui, ont leur condition est pire qu'avant? Est-ce que vous-même, en tant que militante, vous subissez des brimades de la part de quelques couches que ce soit au Mali?
Bon, les conditions, ça dépend aussi des moments et des milieux. Hein, parce que c'est des gens qui ne vivent pas dans de bonnes conditions. Ça, déjà, il faut le dire. Moi, je pense que, moi, en tant que peut-être malienne, devant la loi, je ne suis pas de trucs par rapport à ça. Mais peut-être en tant que femme. Parce qu'en tant que femme, on sait que ce qu'on est en train de subir en tant que malienne. La loi, il y a la loi qui est là. Les femmes ne sont pas assez représentées dans les instances de prise de décision, même à la base. C'est pas. Donc, par rapport à ça, je peux dire que j'ai des pressions ou même quelque chose qui m'empêche de dire certaines choses.
Mais vous pensez que les femmes doivent s'investir plus dans cette lutte?
Cette lutte, parce que quand j'ai dit esclavage par ascendance, c'est par rapport à la maman, pas par rapport au père. Mais donc c'est une lutte qui nous revient de droit et qu'on doit le faire avec énergie. Et quand je vous disais qu'on a apprécié le ministre de la Justice, c'est quand M. Koulibaly était ministre de la Justice.
Malick Koulibaly, sous
la transition, il y avait un projet de loi. Et il nous avait promis qu'il allait donner ça à quelqu'un pour peaufiner. Aussi, au niveau du ministère de la Justice, il y a un comité national de lutte contre l'esclavage et pratiques assimilées qui est dirigé par un responsable du ministère de la Justice, je parle de Ségal.
Alors, comment définir cette pratique assimilée?
Il y a des pratiques assimilées à l'esclavage. Voilà. L'esclavage est là. Il y a d'autres pratiques. Comme je l'ai dit, ça dépend des régions. Il y a des régions où on confisque totalement
la personne
où on enlève même l'enfant des mains de sa maman et on va avec. Mais dans d'autres coins, c'est un peu plus modéré. C'est un peu plus modéré. On dit cette famille, c'est la famille d'esclaves. C'est eux qui tuent nos moutons, c'est eux qui font ceci. Donc, c'est un peu différent des trucs. Mais c'est des pratiques qui sont là. Et les gens se soumettent à ça.
Alors, vous parlez de plus d'implication de la part des femmes. Aujourd'hui, vous êtes au sein de cette coalition. Mm-hmm. Il y a combien de femmes au sein de cette coalition?
Pratiquement, le bureau, à part les responsables thématiques qui sont là-dedans, hein, et c'est tout, on est toutes des femmes. C'est, nous, les structures qui sont là, c'est surtout des femmes qu'ils ont envoyées. Ces structures-là ont envoyé, à part les confessions religieuses ont envoyé un homme. Sinon, la plupart, c'est des femmes. Le bureau, avec 8, je pense, on a 5 femmes.
Alors, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, que pensez-vous aujourd'hui de l'implication des intellectuels face à ce fléau?
Oui, ce qu'il faut dénoncer, c'est qu'il va y avoir une double oppression. La première, elle est générale, c'est-à-dire que les esclaves ou ceux qui sont dans les conditions d'esclavage subissent l'oppression générale que, en fait, tout le monde subit. Par exemple, le chômage, le travail, le mauvais salaire, etc., etc. Mais en plus, il y a ce qu'on appelle l'oppression spécifique qui frappe les femmes, tenant compte de leurs propres conditions. Elle l'a dit, et puis elle est une chose, la femme. Et les femmes que nous avons rencontrées, mais vous savez, il y a des maîtres qui couchent avec ces femmes, font des enfants, et ensuite maintenant, les enfants sont répartis entre les enfants de l'esclave lui-même. Nous avons même rencontré des cas des esclaves qui vont tenir des boutiques, par exemple, à tel ou tel endroit, et les recettes, le maître ou l'envoyé du maître va ramasser ces recettes-là. Alors, maintenant, le rôle des intellectuels, je vous ai dit, ça dépend. Parce qu'un intellectuel qui n'est pas libre dans sa tête ne pourra pas effectivement mener un combat de liberté. Quand vous êtes docteur, vous êtes agrégé, dans votre mentalité, vous estimez que vous êtes issu d'une famille noble et que par conséquent, votre grand-père a possédé des esclaves et que vous-même, même si vous n'en possédez pas, vous vous comportez comme un esclavagiste, cet intellectuel ne pourra jamais lutter contre l'esclavage.
Merci beaucoup, Maître Amadou Tchéoulé Diarra. Comme dernier mot, cela me semble assez correct. Nous allons donner la parole à M. Koïna Ag Ahmoudou, vice-président de l'association Temet, pour son dernier mot et pour clore ce débat.
Merci, M. Sidibé. Encore une fois, merci, M. Tamani.
Studio Tamani.
Pour nous avoir donné l'occasion de nous exprimer sur une question aussi importante, aussi préoccupante que l'esclavage et de là tous les droits de l'homme.
Merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir de présenter ce débat, débat qui portait sur l'esclavage. Des études estiment que plus de 800 000 personnes en sont victimes au Mali. L'esclavage est officiellement interdit dans le pays, mais il est toujours omniprésent. Selon Nafi Keïta, anthropologue à l'université de Bamako, il y a au moins 300 000 esclaves à part entière au Mali. Trois volets ont été analysés dans cette émission. L'esclave au Mali, l'esclavage au Mali, où est-ce que nous en sommes? Existe-t-il des textes de répression? Une loi est-elle envisageable? Nos invités qui nous ont aidés à débattre de ces questions, Maître Amadou Tchéoulé Diarra, Madame Keïta Fatoumata Sissoko, présidente de la Coalition nationale de lutte contre l'esclavage, et Maître Monsieur Koïna Ag Ahmoudou, vice-président de l'association Temet. L'association Temet qui tient une conférence de presse demain au Centre international de conférence de Bamako à 14h. Alors, pour vous présenter cette émission, je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Salim Djoura était à la technique. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani
wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.